des formes utiles. L'art et ses récits. Une émission proposée par Fabiola Bodoy. La chose semblait, comme sans doute, absolument certaine.
Nous sommes sur Radio Cause Commune 93.1 FM. Vous écoutez Des formes utiles, l'art et ses récits. J'ai le plaisir de poursuivre mon entretien avec Daniel Fournier et Diane Rejambal, écrivaines et poètes du Québec. Après avoir tenté de répondre à la question de jeunesse de Daniel « Pourquoi écrire ?» en partant de sa correspondance avec Mireille Diaz-Florian et François Minot, qui a fait naître un livre, je vous ai lu quelque part paru en avril dernier aux éditions Unicité. Ilinka Bodoy, comédienne, avait fait une lecture de quelques-unes de leurs lettres. En l'ouvrant à Diane Rejambal qui a apporté ses réponses et questionnements, qui nous a lu de ses poèmes, nous allons continuer à parler de l'écriture, du lieu ou de l'espace secret ou d'où elle advient, du comment aussi, voir comment chacune des deux écrivaines et poètes engage ses quêtes et ses convictions. Et puisque Daniel Fournier écrit en ce moment un nouveau texte, s'en saisir aussi sur le vif pour parler de l'écriture en train de se faire. Cet entretien, comme le précédent, sera une conversation en lecture, en musique. Bonjour Daniel, bonjour Diane.
Bonjour Fabiola.
Fabiola.
De ce livre, je vous ai lu quelque part. Sur votre approche de l'écriture, j'ai relevé quelques mots. Il revient chez chacun de vous trois. Et je rajouterai aussi Diane, justesse, au plus près, clarté, joie, lien entre connu et inconnu. Un geste de survie de vie, ça c'est François qui le dit. Toi, tu dis, Daniel, ouvrir la langue à la nôtre, la varloper, quel joli mot, ça veut dire quoi, varloper?
Varloper, ça veut dire, c'est un québécisme, je pense que la traduction française, ce serait raboter.
Raboter.
Alors, c'est un outil.
Oui.
Ah, c'est le rabot.
Un outil.
Un rabot.
Ouais.
Mais qu'on appelle une varlope.
Ouais. Mais on va dire, j'ai varlopé avec mon rabot.
Ah.
Hein? On dit pas avec ma varlope, on dit avec mon rabot.
Mais mon père disait une varlope.
Ton père disait une varlope.
Mais la peur de ne plus pouvoir écrire, je n'ai lu que chez toi.
Ce n'est que chez moi?
Oui.
Eh ben, dis donc.
Tu as vraiment peur de ne plus écrire? Enfin, ça
oui.
Te... Oui, mais oui. Elle est constante ou elle revient de temps en temps dans des moments de...
Si elle est constante, quand je n'écris pas pour toutes sortes de raisons, que ce soit des raisons familiales ou des raisons personnelles ou bon... Plus de, je dirais, une petite semaine, je deviens très angoissée. Est-ce que tu as ça, toi aussi, tiens?
Oui, c'est... En fait, c'est comme si parfois j'étais atteinte par le vide. D'ailleurs, j'ai écrit récemment sur ce vide-là, comme si ça me figeait. Et là, dans ce vide-là, je ne pouvais plus écrire pour un petit temps. Donc, c'est sûr que là, en forçant ou en essayant, en tout cas, d'aller dans le carnet d'écriture pour écrire différentes choses, pour tenter de réouvrir aussi le chemin. C'est comme si le chemin se fermait parfois. Ça m'arrive.
Mais moi, j'ai vraiment...
Et ça m'angoisse beaucoup, effectivement.
Ouais, mais moi, c'est vraiment la peur de ne plus être capable d'écrire.
Ben voilà.
Je ne sais pas si c'est lié au vide. Je n'ai jamais exploré la question. J'ai juste peur et je me dis, oh, si ça m'arrive, je vais étouffer. Mon premier réflexe, c'est que je n'ai plus d'air. Je vais mourir étouffée.
Vous écrivez toutes les deux de la poésie. Toi, Diane, tu n'écris que de la poésie,
il me semble.
Oui.
Pour ainsi dire, oui.
Pour ainsi dire.
Oui, je vais le dire comme ça, oui.
Et je me suis demandé si j'avais lu ça dans un des documents que tu m'avais envoyé. C'était très beau. Il y avait un homme qui avait écrit sur ton écriture. Il avait vu une fleur et c'est cette fleur qui l'a amené à quelque chose qu'il avait lu chez toi sur cette fleur. Donc, des choses qu'on voit qui nous ramènent en mémoire... Les écrits.
Je pense que tu parles de Colette Zouvi. C'était un homme qui est devenu une femme.
Il me semblait que j'avais vu le nom de...
Colin Zouvi.
Voilà, oui. Ça doit être ça. Mais en tout cas, j'ai pris chez lui quelques... Tu vas voir. Donc, ma question, est-ce que vous avez l'impression de devoir gommer les mots de leur sens accumulés dans l'usure des générations et des années? Chaque mot qu'on utilise, il a un poids, il porte son poids de l'usure.
Historique.
Historique. L'usure quotidienne, l'usure à travers les cultures, la manière dont on l'utilise, pour arriver à quelque chose. C'est ça qui fait poème aussi, le fait d'arriver à trouver le mot, disons, premier, ton mot à toi. Quelque chose qui le débarrasse de tout le poids de tout ce qui a été...
De ses scories,
de ses scories, comme si on travaillait sur un diamant. Est-ce que c'est ça aussi, le langage que vous cherchez? C'est de cet ordre-là aussi le travail?
Je dirais que peut-être... Faire renaître un mot,
sens,
de lui donner un sens qui tout à coup lui donne une vie qui est autre que celle qu'on peut utiliser dans un quotidien, que ce soit le mot chaise ou le mot fleur, parce qu'il y a des milliers, des millions de chaises puis des milliers, des millions de fleurs. Ça permet justement d'aller dans... On cherche le sens aussi dans l'écriture, donc... Quel sens? Comment on donne vie à ce mot-là? Comment on le fait naître autrement? J'ai l'impression que ça pourrait être ça.
C'est comme si on voulait donner un signifié nouveau. C'est comme si ça devient, on pourrait dire, un champ lexical. La chaise, par exemple, la chaise pour elle-même, généralement, bon, c'est un objet. Hein? À la limite, un objet, c'est insignifiant. Mais l'objet porte une histoire. Et c'est l'histoire de la chaise, l'histoire de la fleur, l'histoire de la lampe. Bon, c'est l'histoire qui nous traverse, qui fait que le mot chaise, le mot fleur, le mot lampe deviennent des mots qui portent un sens, qui ont un signifié différent de l'objet.
Comment?
Comment, oui, c'est ça, exactement. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire avec une chaise? Hein? C'est sûr qu'il disait, bon, le mot chien n'a jamais mordu personne. Hein? Bon, c'est un cliché, là, tout le monde le sait. En même temps, le mot chaise aussi...
Si le mot chaise n'est pas non plus la chaise.
Ben non, le mot chaise n'est pas la chaise. Et pour chacune de nous trois, c'est une chaise différente. Et si on repense
La tienne bouge.
La mienne bouge. Et si on pense toutes les trois au mot chaise dans une heure, je ne suis pas certaine que vous allez penser à moi qui bouge sur la chaise. Vous allez avoir une autre chaise dans la tête. Alors, c'est dans ce sens-là que je dis que... Je pense qu'on est dans une certaine quête de signifiant, enfin, peut-être.
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce qu'il y a avant l'écriture, Diane? As-tu la sensation de puiser dans un espace collectif, dans une langue commune ou singulière d'avant la langue? Avant que tu cherches, tu portes tes recherches aussi sur le langage.
Oui, ben c'est ça j'allais dire. Je pense qu'avant l'écriture, il y a cette langue qui se forme en nous. Puis là, ben, je reviens justement à cet enfant qui marche. Et dans sa marche, tout à coup, la pensée se bâtit, la pensée se construit. Et donc, le langage, tout à coup, prend une forme, devient vivant, ce langage-là. Et là, c'est moi, ça m'a beaucoup fascinée quand j'étais enfant, de me rendre compte qu'avec les mots, je pouvais vraiment aller à ouvrir mon lien au monde parce que je viens d'une famille ouvrière où ce rapport au désir de connaître n'était pas nécessairement très prisé, très stimulé. Et donc, pour moi, ça a été une découverte fascinante et j'ai toujours porté ça. Le fait de me rendre compte que le langage... La langue, la multiplicité des langues aussi, parce qu'on est traversé par des langues, même si ce n'est pas des langues roumaines ou anglaises ou etc., mais il y a des langues en nous qui bougent justement et qui viennent construire toute cette pensée-là qu'on...
Le corps est une langue aussi.
Le corps est une langue, notre regard est une langue. Et ça, moi, ça me fascine. Et c'est avec ça que j'écris. C'est avec ça que j'ai besoin d'aller dans cet espace de... Je sens mes yeux, cette curiosité-là, de tenter de comprendre qu'est-ce qui nous fait être. Comment être et qu'est-ce qui nous fait être? Et il y a toute cette part de sensible en nous qui vibre. Il y a des vibrations dans les mots. C'est ce qui fait aussi se tenir debout. Hein? C'est comme le lexique du monde et toutes ces histoires. J'étais un peu lyrique. Hein?
Tu écris, Daniel, en ce moment un nouveau texte. C'est un écrit qui a cherché longtemps sa forme. Virginia Woolf dit « Je crois que l'essentiel quand on commence un roman... c'est de sentir non pas qu'on est capable de l'écrire, mais qu'il est là, de l'autre côté d'un gouffre que les mots sont impuissants à franchir, qu'on ne pourra le tirer à soi qu'au prix d'une angoisse éperdue. Cette forme, il semblerait que tu l'as trouvée. Tu peux nous parler de ta recherche, qu'est-ce qui était difficile, comment on cherche, pourquoi était si difficile. Et une fois que la forme est trouvée, l'écriture peut se faire. Elle ne pouvait pas se faire avant d'avoir trouvé la forme. Et comment sais-tu que tu as trouvé? Et bien sûr, nous lire des extraits de ce texte.
Le texte sur lequel je travaille en ce moment a pour titre « Ténèbres ». C'est un texte qui me cheville au corps, d'une certaine façon, pour toutes sortes de raisons, mais des raisons d'abord, évidemment, personnelles et familiales. Et c'était un texte avec lequel j'ai beaucoup de difficultés et qui ne me vient pas facilement. Au sens où je pense que j'ai trouvé une forme. J'ai été très prétentieuse quand je t'ai dit que je croyais avoir trouvé une forme, puisque plus je m'avance dans ce texte et plus j'avance dans ce texte, j'ai l'impression de me perdre, de ne plus savoir où je m'en vais finalement. Je pense avoir trouvé une manière de m'en distancier, c'est-à-dire de rendre le texte plus distant de ce que je voulais faire, en nommant un personnage du prénom de You. En anglais, le you, le tu en anglais, ce que j'ai jamais fait de ma vie d'ailleurs. Pourquoi est-ce que j'ai choisi le you, un prénom en anglais, je sais pas. Je pense que ça contribue au fait que ça met justement la distance entre moi et le personnage. En même temps, la narratrice, je dis moi, mais c'est pas vraiment moi, c'est oui moi, comme dans tous nos livres, on est présente, mais ce n'est pas que moi. J'essaie de travailler une matière qui est à la fois désastreuse et symbiotique. Alors, j'essaie de me détacher de cette matière, de cette espèce de boule de feu, de cette espèce de catastrophe en même temps. Alors, c'est en ce sens-là que ça devient très, je dirais pas douloureux, parce que c'est pas douloureux au sens de la douleur, mais c'est très questionnant. Je pense que le mot qui serait le plus juste pour parler de ce texte-là, c'est à mesure que je l'écris, c'est comme si je me questionnais sur le texte lui-même. Et j'aime bien la citation de Virginia Woolf. Je me sens en accord avec cette citation-là. Et en même temps, je ne sais même pas si ce texte-là va vraiment aboutir. Je suis dans cette incertitude-là. Et j'ai décidé de garder cette incertitude. Elle ne m'anime pas, elle me désanime pas, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas le contraire. Je suis juste dans cette incertitude de l'écriture. Donc, je vais vous lire le début de ce texte.
Est-ce que ténèbres est au pluriel ou au singulier?
Ténèbres est au pluriel, oui.
D'accord.
Il y a quelques années, je suis morte. J'ai été tuée. C'est la même chose. A-t-on conscience du moment de sa mort? Comment sait-on que l'on est vraiment morte? Quelqu'un nous en informe-t-il? J'ai simplement suivi une route sans bretelles d'accès, sans sortie non plus. Une route qui ni ne commence, ni se continue, ni s'arrête. Qui va? Un chemin en absence de chemin, qui n'existe pas, qui n'a pas de nom, qui n'a aucun tracé. Quelque chose de la négation. Je n'arrive pas à me rappeler comment j'ai pu me trouver sur ce chemin, ni si j'y suis allée seule ou si on m'y a conduit. Je me souviens uniquement du vertige, du regard des autres sur mon vertige au début de la soirée. Et je suis certaine qu'ils l'ont oublié, pas moi. On ne saurait dire, je ne le sais pas, de qui j'ai été la victime, ni si je l'ai été, ni à quel projet funeste j'ai collaboré, ni comment j'y ai été attachée, si j'y ai joué un rôle ou si j'ai été dépêchée. Les choses se sont présentées de nulle part, jaillies de l'obscurité du monde, d'un mystère. Cela est arrivé, cela m'est arrivé. Et j'essaie de réanimer ce qui se passe. Je n'y arrive pas, amnésique ou devenue amnésique, afin d'économiser une détresse portée. Je suis morte d'une maladie suspecte, trouble, cachée. Est-ce que cela remonte à des années ou à des semaines, des siècles ou des heures? Désormais, tout cela se conjugue au présent. J'ai enfilé une cotte de maille, essayé divers travestissements, pour ne pas dire multiples cercueils, peut-être même des tombes. je me suis changé les idées et ai réformé mon corps que j'avais partagé, volontiers donné. J'ai vomi, beaucoup vomi, et demandé que l'on garde mon corps afin que je puisse l'écarter. J'ai bu, mangé, ri, joué à dormir. J'ai parcouru plusieurs enfers, certains plus brûlants que d'autres. Je me suis envolée et gardé le silence et parlé sans arrêt, radoté, divagué, énervé. Me suis rendue publique avant de me terrer ermite et cloîtrée dans des grottes obscures et mal chauffées. Je suis restée là où l'on m'avait rangée, le ventre ouvert pour y défaire les nœuds, le crâne fracturé, scalpé. Cette mort pour laquelle aucun nom n'existe. Je l'ai suivi comme on suit son ombre dans les nuits sans lendemain. J'ai été là.
Aussi, si la mémoire est la seule façon d'apprendre, il faut que je me souvienne, que je n'oublie pas. Comment retrouver le fil d'une histoire qui s'est délitée et a effrité ma vie? Il y a des faits improbables dont seul mon corps en garde la trace. Vigilant, je m'avance, néanmoins funambule. Je compte les pas afin de me consoler, aller quelque part, certes, mais où? Je compte les pas qu'il me faut faire, c'est tout ce que je peux faire, tout ce qu'il me reste. Aveugle ou aveuglé, j'évite de relever la tête. Il y a la honte, cette grande honte. Ne sais plus où j'en suis, ni qui je suis. Simplement que j'ai perdu ce qui, de toute manière, ne m'appartenait pas. Tu as trouvé une forme, tu disais, par fragments, par des impressions. C'était la manière qui te semblait la plus distante.
Oui, en fait, J'ai déjà publié un recueil de nouvelles et de récits construits comme des récits, bon, des essais aussi. Et peut-être à cause du sujet, enfin du propos de ce texte-là, qui est sur, disons, les dépendances et le rapport d'une femme, d'une mère, qui s'adresse à You, à un fils qui connaît de nombreuses dépendances, et comment finalement... Quand on vit avec un enfant qui a décidé de mener une vie parallèle, comment est-ce qu'on peut vivre avec sa vie parallèle à lui? Et ça se fait que par la rupture, enfin la rupture dans le sens qu'il y a des rapprochements, il y a des ruptures, il y a d'autres rapprochements, il y a encore des ruptures. Et je pense que c'est peut-être pour cette raison-là que le texte est un texte comme ça, fragmenté. Parce qu'il peut pas y avoir un continuum. Si on entre dans un continuum de relation avec une personne dépendante, on se fait bouffer. Alors, la personne, elle continue de vivre ce qu'elle a à vivre dans son monde parallèle. Et nous, on meurt. Et évidemment, comme je l'ai exprimé, je parle pas que de moi. J'en ai parlé avec beaucoup d'autres mères. Enfin, je parle avec des femmes, pas des pères, parce que les pères peut-être parlent moins de cette relation-là. Et en général, c'est comme si le fait d'avoir mis au monde un enfant, quand on met au monde un enfant, on a quelque part l'impression qu'il nous appartient. Et s'il nous appartient pas, qu'il vient de nous. Mais quand l'enfant grandit et non pas qu'il se détache, mais quand il entre dans cet univers d'où l'on est complètement exclu, pas parce qu'on est sa mère, mais parce qu'on ne peut entrer dans cet univers-là, eh bien, ça nous brise. Ça nous brise comme être humain. Ça nous brise comme mère, en tout cas. Ça nous brise comme femme. Et d'avoir vécu cette relation-là pendant très, très longtemps, je me suis rendu compte que je ne sais pas si je serais capable de traiter de ce propos, mais je pense qu'on en perd même la notion de la féminité. On n'est plus des femmes, on devient que des mères brisées. Bon, c'est pour ça que je reviens tout le temps sur cette idée d'avoir le ventre déchiré, mais on est des mères brisées et on se reconnaît nulle part. Et la chose la plus souffrante, c'est la honte. On vit avec la honte. On a honte d'avoir un enfant comme ça.
En fait, cette honte-là, Danielle, elle vient... quand il y a comme une impossibilité d'aider à réparer.
Ouais, exactement.
Et on se rend compte aussi, ce que j'avais écrit dans Elle voudrait l'ailleurs encore, qu'une mère ne sera jamais assez. Donc, elle ne peut pas, rendue à un certain moment de perte de cet enfant qui est rendu adulte, mais qui s'est perdu, il y a comme une impossibilité de pouvoir le reprendre et de réparer. Et on peut pas le faire à
on
sa
peut
place.
Pas le réparer.
Et c'est pour ça que quand tu dis économiser une détresse portée, c'est que il faut que tu économises cette détresse que tu portes toi parce que sinon c'est plus possible de vivre.
Exactement. Et quand je vois dans la rue des jeunes qui font la manche, bon, quand on voit leur corps amaigri, souvent qui dorment sur un carton, c'est quelque chose que je connais. C'est quelque chose que j'ai vu. Et à chaque fois que je vois ces enfants, pour moi, je ne sais pas pourquoi, mais ça reste des enfants, même s'ils ont 40 ans, 50 ans, 60 ans. Quand je vois ces enfants, je me dis toujours, j'espère que la mère ne les voit pas. Parce que moi, je la vois. Et je l'ai vue. C'est quelque chose d'affreux. On se demande comment... Et là, je reviens encore avec la culpabilité. On se demande comment on en est arrivé à faire d'un enfant...
Cette impression d'avoir failli.
D'avoir la honte d'avoir failli, mais d'avoir plus que failli, d'être dans l'impuissance absolue et totale, parce que la mère ne pourra jamais rien faire. Ça, on le dit, c'est rationnel. C'est facile à dire qu'une mère ne peut rien faire, mais dans la réalité, c'est comme s'il y avait une espèce de petit...
Mais il y a un sentiment d'échec, parce qu'on en vit, quand on met au monde un être, ouais, on a envie de le voir grandir, se détacher de soi et ouais, prendre en charge sa propre vie.
Ouais.
Et là, en ce moment, c'est pas le cas.
C'est pas le cas.
Donc, ce you est en fait en perdition de sa propre vie. Donc, ça ouais, te fait, toi, perdre cet être-là.
Mais ça fait perdre ta propre vie
et
aussi
ça te
à
fait...
toi.
Oui, c'est ça, mais ça, c'est... Parce que tu n'as aucun moyen de pouvoir l'aider.
Non, et ce livre, enfin, ce qui va être peut-être un livre, ouais, est-ce que c'est une manière de tenter quelque chose.
Oui, ben c'est tenter quelque chose.
Un dialogue avec
lui. Non, pas avec lui. Non, pas avec lui. C'est pas un dialogue. C'est une façon pour moi de sortir de la honte. Ça m'a pris des années avant de me rendre compte. Bon, je savais sans doute quelque part dans ma tête, je savais que j'avais la honte. J'avais la honte. Mais c'était quelque chose que je disais pas volontiers. Surtout, ce qui est excessivement aussi pénible, c'est quand on voit dans son entourage ou dans les amis, ou, et que là, on voit que, bon, l'une, ben, son fils vient de finir ses études, on voit la réussite. Et comment les parents, la mère, le père, les parents sont fiers, évidemment, de la réussite de leurs enfants. C'est normal. De toute façon, on est toujours fiers de la réussite de quelqu'un, que ce soit notre enfant ou pas. Mais quand on voit l'échec chez quelqu'un, ça nous rend triste. Mais quand c'est l'échec de notre propre enfant, mais c'est comme un double échec. Parce qu'il y a l'échec de l'enfant, puis il y a l'échec de soi comme mère. Donc, on n'a pas réussi notre rôle de mère. C'est comme une espèce de leitmotiv, de retour. Et je sais que c'est culturel. Je sais que c'est social. Je sais, je suis capable de le réfléchir. C'est pour ça que j'ai décidé d'écrire ce livre-là. Même si tu as dit la semaine dernière que tout avait été écrit, je sais que tout a été écrit sur ce sujet-là. Mais mon livre n'est pas un témoignage. C'est pas un témoignage, c'est d'abord un travail sur la langue. Comment la langue peut peut-être réparer? La langue peut peut-être réparer ce que le langage du corps ne peut pas. Mm-hmm. Je dirais ça comme ça. Parce que le langage du corps est dans un autre univers, un univers complètement parallèle, ténébreux, d'où le titre. Mais peut-être que la langue peut essayer.
Peut-être, Diane, tu vas nous lire quelques poèmes de Au plus clair de la lumière pour sortir des ténèbres.
Mais je voudrais juste, avant, dire que de te permettre d'aller dans ces ténèbres-là, avec le seul outil que tu as en ce moment pour tenter de te sortir de la honte et de la nommer, la honte, hein, en nommant la honte, tu peux peut-être en détacher un peu.
Ça les éloigne, en tout cas.
Ça les éloigne, mais en même temps, ça te permet que ce qui était caché, caché du monde, en le mettant en écriture et en ouvrant justement cette douleur-là, ben ça te permet, toi, de bouger autrement. C'est sûr qu'il n'y aura pas de réponse, mais au moins, ça sera dit. Et je pense que ça, c'est très important. Vraiment. Je t'encourage à poursuivre. Alors, Au plus clair de la lumière a un sous-titre « Chant pour l'enfant qui revient ». Et c'est dédié à ma fille Charlotte. Cours, fais courir la pensée. Pousse-la au bout de tes doigts, le temps l'irradie. Compose des partitions de soulèvement. Réalise des vœux, écris « Liberté » sur un pétale. Aie confiance en ce qui exhorte à venir. Suis le poème traversé par les ombres de l'histoire. Lance les dévats dans l'ailleurs des pas. Fouille au plus clair de la lumière. Invente une somme de gestes pour mieux tenir dans l'entendement du vivant. Force le sort de tes origines. Mêle leurs inscriptions à tes pas qui cherchent à succomber. Crois en la puissance astrale des rencontres. Détends tes mains. Secoue le bruit des autres. Capte les couleurs aux remparts des bougainvilliers. La rumeur se fond dans tes oreilles. Les notes aboutissent dans ton corps absolu, font de toi un océan furieux, l'instant d'une danse chavirée dans le sable, rebondit jusqu'à l'étage, peuplé de cris. Vois la dérive des êtres qui réfugient leur faim dans la faim des autres. Convoque la colère tremblante, la rage grondante, puissance volcanique en latence. Contrains tes yeux à rester grands ouverts, bras levés, pas engagés dans la manifestation. Redis la profonde indécence, délaissée pour compte aux fureurs erratiques. Éclipse l'épouvante, mais avance vers le triste ravage du monde. En toi, des espérances crues. Traverse les frontières sans permission, risque le jeu du passager de tout pays, persiste à offrir ta langue méconnue, frôle l'arrêt de mort. Oriente le chemin, tire l'air de ton voyage, les sacs de nuisances tombés. Prends le fruit oublié dans ta poche, savoure-le, son jus coule dans ta gorge. Porte avec toi le chagrin des racines meurtries. foule la terre étrangère. Donne-lui de ta chair, mêle-la à tes veines, révèle-lui ton sang.
Diane, une citation de Giordano Bruno ouvre ton recueil sur le rêve noir. On peut imaginer qu'une même matière transmigre en diverses formes et figures, si bien qu'il faut pour la lier recourir continuellement à de nouvelles sortes de nœuds. Ainsi donc, le lien par lequel les choses veulent être là où elles sont et ne pas perdre ce qu'elles ont, ne laisse pas d'être aussi celui par lequel elles veulent être partout et avoir ce qui leur manque. Le 17 février 1600, il a 52 ans, pour n'avoir pas voulu renier ses convictions, Giordano Bruno est brûlé sur le bûcher par l'Inquisition. Tu aimes la philosophie? Elle t'inspire, mais tu as de l'admiration plutôt pour les rebelles, je dirais, pour les penseurs à l'envers, à contre-courant. Maria Zambrano, elle aussi, elle a combattu le franquisme, a passé sa vie en exil.
Oui, tout à fait. Ouais, j'aime justement les êtres qui se rebutent et qui tentent d'aller justement ailleurs pour créer justement des ancrages beaucoup plus vrais.
Debout.
Mais qui restent debout, voilà. Oui, qui restent debout. Et ça, pour moi, cet exergue, cette citation de Giordano Bruno, c'est pour moi important parce que on travaille continuellement avec ces nœuds-là. Puis on tente de défaire certains nœuds, mais il y en a d'autres qui se font. Et parfois, on a besoin de ces nœuds-là pour pouvoir justement écrire et pour pouvoir aller plus loin dans l'écriture et dans la pensée. Donc, j'aime beaucoup ça. C'est comme si les nœuds se refont constamment.
Tu pourrais nous dire ce qui nous lie du rêve noir?
Alors, ce livre sur le rêve noir qui devait s'appeler « Ce qui nous lie », mais il y a eu quelqu'un qui avait ce même titre-là cette année-là. Et donc, sur « Ce qui nous lie », jusqu'au nœud qui nous lie. Et donc, je vous lis quelques pages du tout début, ce qui nous lie, la première suite. Tu verras les filochements, le cassement de fils, les constellations se réduire, mais ça filera encore. Éruption d'étoiles usant le temps du ciel. Tu verras la ville s'enluminer d'autres éclats. Tu marcheras comme un ange léger sur le rêve noir. Tu verras du monde ailleurs attendu, du monde usé, des étrangers parmi d'autres étrangers. Tu referas le trajet vers la maison, m'imagineras endormi entre des affamés, envisageras pour un instant ma dissolution qui collera à ta peau comme une cicatrice enlaçant ton cou. Plus tard, un silence autour de disparus, les feuilles remplies de mots, tu courberas le dos, te pencheras sur leur résonance, le cœur calme, malgré les fureurs écrites, les incendies reconnus, les chagrins de douleur portés. Tu n'auras plus de trêve qu'une émeute de récits où te reconnaître ou te pécher, l'appât des mots t'aura saisi. Thank you.
génial. Tu as écrit un livre avec Louise Marois, Je n'aime pas violer. Mm-hmm. Un autre avant Iris, avec Luce Guilbeault. Dis-moi plutôt ce qui nous réunit, qui est peintre et poète. Le travail du peintre d'origine roumaine Sergiu Zancu t'a donné aussi envie d'écrire des poèmes. Qu'est-ce qu'écrire avec une poète et qu'est-ce qu'écrire avec une peintre ou sur des peintures? Qu'est-ce qui te réunit avec la peinture et avec une poète comme Louise Marois?
J'aime beaucoup travailler en collégialité. Alors, j'aime travailler avec quelqu'un pour reprendre un peu le fil de notre conversation. J'aime unir des solitudes. Je pense que quand on est devant un tableau, on est seul avec son tableau. Les images que l'on a dans sa tête, quand on est devant sa feuille de papier, on est seul avec les mots qui nous habitent. Et profondément, c'est peut-être étrange, mais profondément, j'aime l'amitié. J'aime beaucoup l'amitié. J'ai beaucoup aimé travailler avec Luce Guilbeault, avec Sergio, avec Louise Marois. J'ai beaucoup aimé travailler avec Mireille Fargier-Caruso. J'aime la correspondance. Mais pour moi, il y a toujours une vraie correspondance. Ouais, il y a toujours une vraie correspondance. C'est sûr que travailler avec un peintre, c'est différent de travailler avec une écrivaine. Là, je vais probablement travailler aussi avec une autre peintre, Anne Slasik. Ce qui m'intéresse dans la peinture, c'est... En fait, c'est le pinceau. Non, ça a l'air étrange, hein?
C'est vrai?
C'est le geste du pinceau qui est le même geste que le geste de l'écriture. Alors, c'est ce geste-là qui me porte. Il faut dire que j'ai passé 3 mois à Montpellier et partout où j'habitais, il y avait les tableaux d'Anne Slasik, donc j'étais dans son univers. Sergio, je suis allée chez lui, j'ai vu ses tableaux et c'est leur corps devant le tableau qui me porte. Et c'est carrément le travail de la plume, du pinceau, de la plume fontaine. Il y a comme une espèce de correspondance entre les... Même si c'est un travail très, très, très solitaire. Louise Marois, c'est une immense graphiste. C'est une immense plasticienne. Elle fait des dessins à couper le souffle. On ne sait pas d'où lui vient cette capacité. Je suis à chaque fois ébahie devant son travail.
Magnifiques photos aussi.
Oui, elle fait des magnifiques photos, mais je suis reconnaissante qu'elle puisse faire ça. Donc, on a fait ce texte-là ensemble. C'est unir des solitudes. Hein. C'est de la correspondance.
Il faut dire que dans « Je n'aime pas violet », vous avez chacune écriture, toi en prose, elle en vers, ouais, avec ses photographies. Ouais. Alors, et en plus, elle a fait la conception du livre.
C'est le lien. C'est le lien qu'elle
a fait. C'est ça. C'est vraiment magnifique. C'est un très beau livre.
C'est elle qui a fait le lien à travers les photos, à travers l'objet livre. Pour elle, c'était très, très important de faire un objet livre. Et puis, bien évidemment, moi, je lui ai laissé toute la place pour ça. J'ai dit, c'est ton domaine, tu le fais. Moi, je suis d'accord avec ce que tu vas faire.
Diane, ce que je trouve merveilleux avec la littérature et encore plus peut-être avec la poésie, est que chaque lecture est unique. Chaque lecteur peut faire sien le poème. Cela, d'ailleurs, Daniel, t'inquiète un peu, comme on l'a vu dans la lettre, quand tu dis, enfin, inquiétude entre guillemets. Je vous ai lu quelque part, il y a toujours un fossé entre notre vouloir dire auquel on n'échappe pas et entre ce qu'on écrit et qui sera lu par l'autre. Sur la plateforme Littérature Vivante, portée par Rhizome, plusieurs personnes, toi aussi, lisent des poèmes de ton recueil sur le rêve noir.
Toujours les mêmes poèmes. Alors, j'ai été invitée par Simon Dumas à faire ce projet-là. Il a invité différentes personnes, un prof en cinéma, un autre en philosophie.
D'âge différent aussi.
D'âge différent, oui. Très, très jeune comédienne qui avait pas 20 ans, une linguiste, bon, etc. Et chacun lisait dans chacune des vidéos le même texte avec un rythme différent et on discutait de ça.
Mais c'est dire aussi, il n'y a pas de ponctuation dans ces poèmes.
Non, c'est ça. Il n'y a pas de ponctuation. C'est quelque chose que j'aime bien faire de toute façon dans plusieurs de mes projets. Donc, il faut savoir justement où ça se situe. Et si on ne le sait pas, ben ça peut nous échapper. Ça peut même parfois m'échapper à moi-même quand ça fait longtemps que j'ai pas relu un texte. Mais c'est ce que j'aime, justement. Puis il a fait le montage de ces 7 vidéos-là et terminé par une discussion entre lui et moi sur ce fameux rêve noir et les liens avec Giordano Bruno.
C'était presque une performance filmée. C'était,
j'ai adoré ça. Passer une journée entière à être dans le noir. à entendre les autres.
À entendre les autres te lire.
Oui, et commenter, puis donc créer toute cette distance que ça crée aussi.
À Amsterdam, c'était une résidence en rapport avec la danse.
Oui, c'est ça. Donc, j'ai pu assister à différents lieux de travail. Donc, je suis allée chez Anne-Thérèse de Kersmarker, qui est la grande, grande chorégraphe. Après Pina Bausch, moi, c'est vraiment l'une de mes favorites. Donc, j'ai pu aller voir comment il travaillait. Puis ensuite, j'ai écrit un texte, mais qui était lié avec une chorégraphie qui était déjà mise en scène. Mais j'aime beaucoup ça parce que ça me permet, pour rebondir aussi sur ce qu'a dit Daniel, travailler avec une œuvre, qu'elle soit musicale, qu'elle soit picturale, qu'elle soit en danse, ça permet justement de créer des déplacements dans l'écriture et d'aller dans des zones auxquelles j'aurais pas pensé. Et ça, j'adore. Au lieu-dit, la maison d'édition lieu-dit font des petits boîtiers en bois avec un Leporello, avec une artiste visuelle. Donc, on écrit à partir d'eux. Mais évidemment, on est en pleine invention. On est inspiré par l'œuvre visuelle. Mais en même temps, on est dans sa propre écriture, dans sa propre invention.
Donc, je ne sais pas si c'est plus fréquent que des écrivains travaillent à partir d'œuvres picturales ou la danse. Mais je me demande si l'inverse est vrai aussi. Je me demande s'il y a beaucoup de peintres, de plasticiens qui travaillent à partir de poèmes déjà écrits.
Le livre, elle voudrait l'ailleurs encore. C'est une grande amie, Sophie Langteau, qui a fait 9 encres à l'intérieur, plus la page couverture. Elle a travaillé à partir du texte. Oui, elle avait certaines œuvres qui étaient déjà construites. Mais il y en a d'autres qu'elle a fait pour ça. Et ben, je trouve que c'est formidable. Moi, j'aime beaucoup les échanges. C'est très riche. On enrichit un territoire, finalement.
Mais c'est une correspondance.
Est-ce que dans ce geste d'écriture, chacune de vous, peut-être chaque écrivain, je ne sais pas, il a, non pas dans les rituels, dans les moments choisis, mais dans l'approche, dans la construction, une même démarche qui serait celle d'une descente en soi?
Je pense que tout à l'heure, j'ai prononcé le mot ancrage. Je pense qu'il faut être dans une pure présence, dans un ancrage. Sinon, quand on est dans une dispersion, ben on écrit avec une dispersion, puis ben, tout nous échappe. Tandis que quand on réussit, mais ça demande vraiment tout un travail d'être dans ce soi dont tu parles, c'est le soi justement de l'altérité qui nous amène à aller vers quelque chose qu'on porte, mais qui nous porte aussi. Alors, pour moi, ça, c'est très important, ce rapport-là. Donc, de savoir qu'on est porté aussi. Et donc, oui, il y a dedans, mais il y a aussi dehors. Mais comment, justement, ce rapport-là, ce filtre-là peut se faire pour arriver vraiment à une écriture où on dit « Ah, là, je suis dans une juste musique de ce que je suis en train d'écrire ».
Je pense que, ben, je ne sais pas comment je pourrais l'exprimer avec justesse, mais j'ai l'impression que moi, je suis toujours dans l'écriture. Je ne suis pas de temps en temps dans l'écriture. Je suis toujours, toujours dans l'écriture.
Oui, tu le dis d'ailleurs dans le livre, j'écris tout le temps.
Ouais, même quand je n'écris pas. Même quand j'écris pas, j'écris tout le temps. Bon, ça me fait penser à cette phrase que m'avait déjà citée Jean-Paul Daou, qui, bon, c'était plutôt une boutade, mais il disait « Ne dérangez pas un écrivain allongé sur un transat, il écrit. » Je pense que je suis tout le temps dans l'écriture, mais ça ne veut pas dire que être dans l'écriture, et c'est là où je rejoins Diane, que ça veut dire que je suis dans le geste de l'écriture. Quand je suis dans le geste de l'écriture, alors là, ça me prend, j'appelle ça une chambre d'écriture, mais enfin, c'est comme ma chambre est dans la tête. Et c'est comme si là, et je reviens encore avec cette idée-là, que je suis une passeuse d'existence, que j'ai comme si j'avais intégré le monde. Toi, t'appelles ça se tenir debout, l'ancrage. J'ai pas ces mots-là, mais enfin, c'est comme si le monde, je l'avais pas filtré parce que je garde pas le pire et le moins pire. Moi, mais c'est comme si j'étais devant ma feuille. J'écris à la main. J'écris comme Diane. Je pense qu'on écrit toutes les deux à la main dans des cahiers. Donc, c'est comme s'il y avait le geste de l'écriture qui me ramène à, le geste de l'écriture me ramène au moment de l'écriture. C'est comme complémentaire. C'est pas une aporie. C'est pas du tout une aporie, c'est que le geste de l'écriture, le fait d'écrire me ramène à écrire. Alors que quand je suis dans le transat, dans le métro, ou n'importe, je suis dans ma tête d'écriture.
Dans l'avant-geste.
Dans l'avant-geste.
Ouais, c'est une bonne façon de le dire. Mais ça, oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense qu'on écrit dans notre tête, en tout cas, mais ça se passe dans la tête.
Mais même dans la nuit, on écrit dans la nuit,
c'est ça,
rêve.
Exactement. Moi, je prends mon téléphone avec le dictaphone pour dire des fois 2-3 mots, parce que je sais que ça m'échappe sinon, tu sais. Oui, tout à fait, on est dans l'avant-geste de l'écriture. Puis quand on ouvre le carnet, puis qu'on se met à écrire, ben ça écrit, hein, ce que dirait Duras, ça écrit.
Ça écrit, oui.
Ça écrit, oui.
J'ai lu chez l'écrivain Herida Luca, qui n'est certainement pas le seul. Je ne cite pas. Tout ce qui s'écrit n'est qu'une répétition de ce qui a été écrit depuis la nuit des temps, qu'on ne fait que réécrire. Est-ce que c'est aussi votre ressenti? Et si oui, est-ce que c'est paralysant? Est-ce que vous avez peur d'écrire et de répéter? Est-ce qu'il y a cette crainte de se répéter? Et qu'est-ce qui vous soutient ou protège dans cette crainte, si crainte il y en a? Et si êtes-vous dans une continuelle recherche d'inventer une langue, de trouver un langage unique ou de le tenter? Comment on sort de cette...
Alors, je dirais, c'est toutes les réponses en même temps.
Toutes les réponses sont bonnes.
Ouais, toutes les réponses sont bonnes parce que je pense que oui, on le sait que tout a été écrit. Oui, on le sait qu'on va réécrire et qu'en plus, on va se réécrire soi-même. Comme disait Roland Barthes, le premier et le deuxième livre d'un auteur, voilà, c'est dans ce premier et dans ce deuxième livre qu'on va trouver son œuvre, enfin son travail, enfin, prenons l'expression qui fait l'affaire. Et pourtant, on continue. On continue. Et je pense que c'est une question d'être au monde. J'ai pas d'autre réponse que celle-là. C'est une question d'être au monde. J'écris parce que je ne sais pas faire autre chose. Enfin, c'est ce que je fais. J'écris, puis je fais à manger, puis je fais la vaisselle, mais j'écris, puis ça fait faire la vaisselle, ça fait partie de mon écriture. Faire les courses, ça fait partie de mon écriture. J'écris parce que c'est pour ça que je suis faite, en quelque sorte. J'ai pas vraiment de...
Alors, donc, ça ne te paralyse pas l'idée que t'as pas des moments de doute où tu
Des doutes continuellement. Paralysé tout ou sous-souvent. La pire des choses, c'est quand on entre dans une librairie ou quand on va dans une bibliothèque et on voit tous les livres qui ont été publiés et on se dit, ben c'est ça, il va y avoir un livre de plus. Mais en même temps, ça m'empêche pas. C'est comme, c'est une pulsion, c'est plus fort. C'est être au monde.
Moi, je me dis que tout ce qui a été écrit, c'est merveilleux. Puis plus on lit, plus on se rend compte justement de nos connaissances. Hein. Nos connaissances rapetissent et non pas s'agrandissent. C'est quand même assez fascinant, ça. Moi, je me dis que j'aime pouvoir lire des œuvres qui me font écrire. Alors, est-ce que ça devient du mimétisme? Non, ça devient simplement une œuvre ou une pensée qui me fait bouger. Et qu'est-ce qui me fait bouger dans l'écriture et dans les textes déjà écrits? Et ça, moi, j'adore ça. Je trouve que c'est le plus grand stimuli, c'est de savoir...
C'est comme un tissu qui continue à
se... Oui, c'est ça. Puis, peu importe, que ce soit dans toute forme d'art, que ce soit en musique, on pourrait dire que tout a été fait en musique aussi, tout a été fait dans la danse, dans les arts visuels... Voilà. Tout a été fait d'une part, mais rien n'a été fait non plus, dans le sens que on arrive avec notre voix et nos mots, et on a une propre identité, en quelque sorte. En tout cas, on essaie, avec toute la pluralité qu'on souhaite avoir dans notre écriture, mais ça nous amène à justement créer, aller plus loin dans ce fameux tissage-là. Puis même si c'est le même tissage, c'est pas grave. Qu'est-ce qui nous lie? Moi, c'est ma question. Sur le rêve noir a été écrit justement sur qu'est-ce qui nous lie. Tant par le rêve, il y a tout l'onirisme qui est important. Il n'y a pas que la réalité tangible. Il y a des strates qu'on porte en nous. On porte des rêves aussi. Et les rêves sont complètement inusités. Il n'y a personne qui a rêvé le rêve que j'ai fait ou que tu as fait ou que tu as fait. C'est assez fascinant, ça. Et donc, l'écriture nous amène à aller là, dans cette espèce d'étrangeté.
Dans De rerum natura, Lucrèce, en écrivant sur le clinamen, il le définit ainsi. Dans la chute en ligne droite qui emporte les atomes à travers le vide, en vertu de leur poids propre, ceux-ci, à un moment indéterminé, en un endroit indéterminé, s'écartent tant soit peu de la verticale, juste assez pour que l'on puisse dire que leur mouvement se trouve modifié. Sans cette déclinaison, tous, comme des gouttes de pluie, tomberaient de haut en bas à travers les profondeurs du vide. Entre eux, nulle collision n'aurait pu naître, nul choc se produire, et jamais la nature n'eut rien créé. Peut-être qu'écrire est un de ces moments indéterminés qui se passent dans cet endroit indéterminé qui produit un écart, juste assez pour modifier notre mouvement et nous permettre d'entrer en collision avec l'autre. Nous sommes à la fin de cet entretien. Nous allons le clore par la lecture des poèmes de Diane Regimbald de Nos attachements, le livre qu'elle a publié à l'Atelier des Noyers en mai 2025 avec les poètes québécoises Denise Desautels et Louise Dupré. Et un autre extrait d'un texte que Daniel Fournier a écrit avec Mireille Fargier-Caruso, Ce pourrait être l'été, paru aux éditions
Méridiane.
Alors, Nos attachements a été écrit à partir des œuvres des encres de Marie Delbar. Elle a vraiment soutenu ce projet, Nos attachements, ce qui nous lie. Je vous lis trois poèmes. Le corps appelle la caresse, tête baissée, bercée par le vent, encercle pensée et désir. Nous échafaudons nos liens de cercles concentriques, d'aimants puissants, entre deux attractions. La forêt nous habite, échappe aux attentes, sa densité labyrinthique. Nous poursuivons le grand silence implanté dans nos chairs. Rien ne peut mieux supporter la grande fatigue des heures, le soulèvement des sables et des remous, qu'une pulsion de sang vif parcourant le réseau entier de nos veines, corps tracé des abandons, géographie de terres innommées, de routes d'errance. Ce qui retient nos vies aimantes, malgré les doutes qui tremblent, comme les feuilles d'un peuplier, l'appel à durer dans l'affection de nos voix, en pleine vague l'espoir s'élève nu, émeraude brute adossée aux remparts d'une autre pierre, un désir toujours de nous retrouver libre.
Là encore, avec d'autres poètes, quelque chose qui vous réunit.
Une collaboration.
Oui, une collaboration,
voilà,
oui.
Ouais. Mais nous avons écrit nos suites poétiques individuellement.
En solitude.
En solitude, chacune. Denise Desautels, Louise Dupré et moi. Mais à partir des encres de Marie Delbar. Et comme on avait ça en tête, ce qui nous lie, nos liens, nos attachements, on en a fait chacune une suite poétique.
Ce pourrait être l'été, l'heure des groseilles, de mûriers encore en fleurs, diverses couleurs de blanc, de pêche, de jaune, de bleu, de rouge. Ce pourrait être l'été, tranquillement allongé et gourmand, à considérer les commencements sans issue, banal, une absente rêve qu'elle aurait pu être là, présente, à la fois absente, à l'heure de l'été. Dans un autre siècle, d'un autre lieu, les canards sauvages n'ont pas de nom, les visages s'achèvent quand le cœur planté sous l'arbre s'endort, il reste si peu de choses et elles sont de cendres, après tout.
Je vous remercie, Daniel, Diane, pour votre présence
merci
lumineuse.
À toi. Merci à toi, Fabiola.
Ouais, merci, Fabiola. Merci, Diane.
Et merci, Daniel, de m'avoir invité à cette rencontre.